7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, l'Afrique au défi du riz. C'est la deuxième céréale la plus consommée sur le continent derrière le maïs, mais 40% des besoins sont importés d'Asie, principalement d'Inde. Le continent s'inquiète des crises alimentaires, vous le savez, notamment à cause de la crise de la guerre en Ukraine, qui a fait flamber le prix des engrais. Alors pourquoi l'Afrique ne parvient pas à produire sa propre consommation de riz? Comment augmenter les rendements malgré les aléas climatiques pour suivre la croissance démographique et la demande urbaine en riz blanc, bon marché? L'agriculture sur le temps long est-elle compatible avec les promesses politiques volatiles ? Que vous soyez consommateur ou producteur de riz, on attend vos témoignages sur le riz local ou importé. Racontez-nous les prix, la qualité. Appelez-nous dès maintenant sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités, Patricio Mendes del Villar, bonjour.
Bonjour Manuel.
Vous êtes économiste au CIRAD, le Centre de Recherche Agronomique pour le Développement. Vous publiez aussi tous les mois un baromètre du marché du riz sur la base de données Osiris que vous éditez. Vous êtes en liaison avec nous de Montpellier grâce aux moyens techniques de France Bleu. Héros également avec nous au téléphone. Baba Diallo, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes riziculteur. Votre entreprise agricole Wallo Agri est basée à Tiagar, dans le nord du Sénégal, dans la vallée du fleuve Sénégal. Nous serons aussi en ligne tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec Yacouba Dembélé, directeur général de l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire. Et à mes côtés, Marie-Pierre Olfant. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Vous êtes journaliste à RFI. Votre chronique des matières premières est également disponible sur RFI.fr. Mais ça, vous le savez, les voisins et les voisines, on attend vos messages et vos appels. Je vous lis quelques commentaires. Jean-Paul Aloubumbashi en RDC nous dit « Mon pays regorge d'espaces verts. Le monde pourrait profiter de l'abondance des pluies pour la culture sur cette partie très riche. Malheureusement, la guerre nous éloigne toujours de l'objectif. » Idoumou est à Nouakchott, en Mauritanie. L'Afrique continue d'importer le riz et le blé malgré la fertilité du sol. Les dirigeants n'arrivent pas à adopter de politique agricole. Voilà, ça c'est pour vous Marie-Pierre qui avait longtemps vécu en Mauritanie comme correspondante de RFI. Aliou à Cotonou au Bénin, le riz local béninois est produit au nord du pays, dans les zones montagneuses. La quantité de riz produite ne couvre pas la demande du pays. La culture du riz est concurrencée par la culture du coton. Les producteurs de coton sont privilégiés par le gouvernement par rapport aux producteurs vivriers. C'est bien dommage car le prix de la farine de manioc a flambé. On voit bien qu'effectivement tout est interconnecté sur le marché, dans le panier de la ménagère et surtout en ce moment. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Alors Marie-Pierre Olfant, comment se situent en ce moment les prix du riz que l'Afrique achète en Asie pour sa consommation, principalement à l'Inde? Où est-ce qu'on en est?
Alors pendant des mois, le riz a été un peu un ovni sur les marchés. On a vu le maïs, le blé, les céréales globalement grimper, flamber même. Et le riz est resté stable jusque-là, notamment parce que l'offre était bonne, parce que les prix étaient bas, les prix offerts par l'Inde qui a vraiment casser les prix sur le marché. Donc on a eu cette période un peu faste de stabilité, mais on dirait que c'est fini. Alors peut-être que Patricio Mendes del Villar nous en dira plus, mais ça commence visiblement à monter. On parle de 15 à 25 dollars en plus la tonne sur des prix qui tournent autour globalement de 420, 450 en ce moment dollars la tonne. Donc c'est pas grand-chose, mais la tendance est là, à la hausse. Alors pourquoi ces prix montent, c'est toujours un petit peu la question. On pense que c'est parce que la demande est plutôt bonne et dès qu'il y a une demande un peu forte, eh ben, évidemment, ça tire un petit peu sur les prix. Et il y a toujours ces difficultés logistiques qui sont très importantes et ces coûts du fret maritime qui ont été en plus augmentés avec la guerre en Ukraine. Ben, ces coûts pèsent évidemment sur les prix.
On est dans une situation fragile en termes de prix, Patricio Mendes del Villar, qui pourrait se répercuter sur le panier de la ménagère pour le riz?
Moi, je dirais que pour l'instant, il n'y a pas de panique sur le marché mondial du riz. Comme le disait Marie-Pierre, c'est vrai qu'on a constaté des hausses il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Mais actuellement, les prix sont plutôt stables et c'est même le contraire. C'est-à-dire qu'on voit depuis quelques semaines des baisses des prix, et notamment en Thaïlande, à cause de la fermeté du dollar face à la monnaie thaïlandaise. Et l'Inde, dont on parle depuis tout à l'heure aussi, maintient ses prix, et je dirais d'une manière stable, mais c'est très remarquable. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment stables depuis des semaines, voire deux mois.
Aucun risque que l'Inde soit amenée à revoir sa quantité de riz exporté vers l'Afrique pour finalement sécuriser ses propres approvisionnements dans un contexte qui est quand même un peu particulier avec la guerre en Ukraine et la flambée du prix des céréales.
Alors, le risque existe toujours, hein, et les marchés, ils n'aiment pas les incertitudes. Et c'est vrai qu'actuellement, on vit une période d'incertitudes géopolitiques, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce risque. Mais actuellement, les Indiens, les autorités indiennes ne donnent pas de signe de vouloir limiter ou arrêter les exportations de riz, contrairement à ce qu'ils ont fait sur le blé et le sucre.
Bon. Alors, chaque habitant en Afrique mange entre... Pas en Afrique d'ailleurs, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, mange entre 80 et 100 kilos de riz par an. Écoutez le message de ce voisin en Casamance.
Bonjour les voisins. Je m'en nomme Dembar Diallo. Je suis étudiant à l'Université Seganta Diop de Dakar. Je suis de la région de Kolda. Et c'est nous, au village, on mange peu le riz importé, car nos mamans font ce qu'on appelle le marofaro. Cela veut dire le riz de la rivière et ça peut nous tenir jusqu'à 8 ou 9 mois dans l'année sans acheter le riz importé. Et nous avons fait aussi un petit constat entre les deux riz. On trouve que le riz de la rivière est plus délicieux que l'autre riz. Et c'est pour cela, en tout cas, nous, on préfère le marofaro que le riz importé. Et merci, bonne journée.
Alors forcément, Dembarou, il est tout près des centres de production. Merci à Dembarou pour ce message. On est en ligne avec une consommatrice à Dakar, Hadi. Bonjour Hadi.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez entendu le message de Dembarou qui préfère le riz local plus délicieux. Est-ce que c'est votre cas aussi?
Oui, j'ai entendu le message de Barou. Je te salue au passage.
C'est votre cas aussi? Vous recherchez également plutôt du riz local?
Oui, c'est mon cas. Moi, je préfère le riz local au riz importé.
Pourquoi?
Le riz local est plutôt pour la santé. Nous ici, le riz local est mieux. Quand on mange le riz local, on digère vite. Le riz local n'est pas lourd.
Vous parlez d'un riz blanchi ou d'un riz demi-complet ou complet, Kadi?
C'est le riz blanchi.
Mais local?
Oui, mais local.
Vous avez dit au Standard que vous aviez du mal à trouver ce riz local sur les marchés à Dakar.
Oui, moi aussi à Dakar, à Guédié, ouais, pratiquement. Je cherche, même le mois passé, je n'en avais pas. Je ne sais pas si c'est à la fin de ce mois si j'en aurai. Mais le mois passé, je n'ai pas trouvé. Dans les boutiques, dans nos magasins, il n'y a pas de riz local.
Et quand vous en trouvez, il est plus cher que le riz importé d'Asie?
Non, il n'est pas plus cher que le riz importé. Il n'est pas plus cher.
Merci, Hadi, d'avoir été en ligne avec nous. On a un message de Luc qui est à Sakété dans le sud du Bénin. Il dit qu'il consomme du riz importé parce que le riz local chez lui est plus cher. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu le comparatif avec vous, Marie-Pierre Olfan, avec vous, Patricio Mendes del Villar, entre ce riz local et ce riz importé, Patricio?
Les situations d'un pays à l'autre, ça change beaucoup, hein, et les consommateurs, quand ils sont proches des zones de production, bien entendu, peuvent bénéficier des prix plus intéressants. Et Ça dépend aussi de la période. En période de récolte, les prix locaux, les prix des riz locaux ont tendance à baisser, alors qu'en période, ce qu'on appelle la période de soudure, et en fin de campagne, les prix des riz locaux sont plus importants. Donc ça ne m'étonne pas du tout, c'est tout à fait logique ces témoignages que l'on voit. Ensuite, concernant la qualité, le goût, là aussi, d'un pays à l'autre, ça change énormément parce qu'il y a des variétés différentes. Là, on parlait du Sénégal et du Bénin. Mais si vous prenez le cas du Mali, les Maliens, ils vous diront qu'ils ont une préférence très marquée par un riz qui s'appelle Gambiaka, qui est un riz local. Voilà, c'est un peu leur basmati, si je puis dire, et malien. Et donc, eux, ils préfèrent ce riz-là. Mais malheureusement, il y a des périodes où on ne trouve pas le riz local. Et donc, les consommateurs sont obligés de se reporter sur le riz importé qui, lui, est toujours sur les marchés de manière régulière.
Et avec des prix stables, relativement stables.
Voilà, avec des prix stables. Et c'est du riz qu'on trouve toute l'année en quantité suffisante. Il y a jamais, en tout cas, j'ai jamais entendu parler des pénuries, des coupures d'approvisionnement de riz.
Ces approvisionnements de riz blanc stable avec des prix stables, Marie-Pierre Olfan, est-ce que ça aussi, c'est d'une certaine manière, ça affaiblit les velléités de riz local ou pas?
Mais en tout cas, moi j'avais une petite question justement sur ces prix, en fait, sur cette stabilité, peut-être juste à poser à Patricio. C'est est-ce que finalement ces prix qu'on peut constater sur le riz local qui, à certains endroits, n'est pas très cher, n'est pas plus cher que le riz importé, est-ce que c'est grâce au riz importé qui fait baisser, qui oblige aussi les producteurs locaux
à s'aligner?
Oui, du fait que c'est le riz importé arrive en grande quantité, il est disponible sur tous les marchés, ça joue un rôle de régulateur, un rôle de régulateur sur le riz local. Donc, et quand on voit les variations de prix dans l'année, et le riz importé, il est remarquablement stable tout le long de l'année, alors que le riz local subit des variations de prix en fonction justement des périodes, soit de récolte, soit de soudure. Donc, en tout cas, c'est vrai, le riz importé est une source de stabilité des prix aux consommateurs.
Nous repartons pour le standard. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Un message a été posté d'un voisin à Dakar. Écoutez-le.
Bonjour, 7 milliards de voisins. C'est Kiernoli, ingénieur agronome environnemental et spécial des changements climatiques. Et je travaille au Sénégal dans la chaîne de valeur riz pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le Sénégal dispose d'une superficie de terres arables qui tourne autour de 3,8 millions d'hectares. Même si les changements climatiques affectent la production rizicole, le Sénégal dispose de 34 milliards de mètres cubes d'eau. Ce qui a permis au Sénégal de mettre en place des barrages au nord, mais également au sud du Sénégal, tels que le barrage de Nyandouba et le barrage du Confluent. L'exemple du barrage de Nyandouba, c'est 85 millions de mètres cubes d'eau pour permettre la culture du riz. Le Confluent, c'est 60 millions de mètres cubes d'eau. Donc, nous disposons la terre, la ressource en eau pour la culture du riz, et pour atteindre la production maximale qui peut suffire aussi bien la population sénégalaise. Maintenant, face au changement climatique, effectivement, il faut que nos États puissent développer des variétés à cycle court qui s'adaptent au changement climatique, surtout pour la culture pluviale. Je vous remercie.
Et merci à vous, Thierno, pour ce message très clair. Alors, le Sénégal aurait... la terre aurait l'eau, aurait des semences adaptées. On va demander la réaction d'un riziculteur au Sénégal. Bonjour Baba Diallo, rebonjour. Vous êtes bien en ligne avec nous?
Et bonjour Emmanuel et bonjour à tout le monde.
Vous avez entendu le message de Thierno. Vous venez d'une famille de riziculteurs dans le nord du Sénégal, le long du fleuve Sénégal à la frontière mauritanienne. Vous cultivez sur à peu près 200 hectares de terre. Qu'est-ce que vous pensez du message de Thierno?
Bon, Tcherno, je le salue au passage parce que je le connais, c'est un brave. Il a tout à fait raison parce que le Sénégal, en tout cas la vallée du fleuve Sénégal, c'est un potentiel de 240 000 hectares. Et à l'heure où je vous parle, on arrive à exploiter que les moins de 100 000 hectares. Donc cela veut dire que le potentiel est là. En tout cas, l'essentiel de la production rizicole du Sénégal vient de la vallée du fleuve Sénégal. Et donc, il y a de la matière. Le Sénégal est arrosé, comme vient de le dire Tcherno, par trois grands fleuves.
Mais alors, s'il y a les terres, s'il y a l'eau, s'il y a les semences adaptées, pourquoi le Sénégal ne produit pas plus?
Voilà, c'est là où se trouve le problème. Parce que peut-être moi, les acteurs qui sont sur le terrain le comprennent mieux que les preneurs de décision. Parce qu'à chaque fois, les décisions viennent, nous tombent du ciel. Alors que pour moi, à mon avis, il fallait que l'État associe les producteurs à la base, surtout les grands producteurs privés de la vallée du fleuve Sénégal. Donc si vous faites un petit rappel, en 2017, on avait fixé un objectif de 1 million de tonnes, 1 million de tonnes de riz. Et sur ces 1 million de tonnes, on avait prévu que la vallée du fleuve Sénégal produise les 60%. Si vous regardez les statistiques aujourd'hui, la FED a un objectif un objectif de 500 000 tonnes. Donc vous voyez la différence.
Oui. Donc, l'objectif n'est pas atteint. Ah, Marie-Pierre Olfan souhaite vous questionner.
Oui, j'avais une petite question. Baba Diallo, vous parlez de vos difficultés, des difficultés du Sénégal. On dit souvent que le riz, ce n'est pas un métier pour des privés parce qu'en fait, ce sont des investissements lourds sur une longue durée. Ce n'est pas sur 5 ans qu'on voit une production et un rendement satisfaisant. Il faut miser sur 20-30 ans. Donc, si ce n'est pas un métier pour des privés, est-ce que l'État accompagne comme il faut ou justement, c'est le problème est là. Les privés sont partants, mais pas l'État.
Comment vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous êtes accompagné par les banques, par l'État? L'État vous aide pour l'achat d'engrais chimiques, notamment?
Oui, sur ce point, bon, comme vous voulez que... Sur ce point, on dira merci, un grand merci à l'État du Sénégal, parce que en cette même période de crise, de tension, l'État a su mettre à notre disposition, sur la campagne contre-saison qui est en cours, presque le double de l'engrais qu'il devait amener. Alors, on vous parle, l'État a déjà mis à notre disposition une partie de l'engrais pour la campagne, pour la prochaine campagne. Mais le problème ne se situe pas là-bas. L'agriculture, c'est un business. La riziculture, c'est un business. Ça, il faut le comprendre. Et il y a des producteurs privés qui savent le faire. Je donne un exemple. Il y a une entreprise, il y a la compagnie française qui est là, qui a su aménager plus de 3000 hectares avec de très bons aménagements, avec la plus grande usine de transformation de riz de l'Afrique de l'Ouest, mais qui n'arrive pas à bouger parce qu'il y a un seul phénomène que l'État n'a pas voulu régler depuis plus de 30 ans. C'est le phénomène des attaques aviaires, les oiseaux granivores. Vous voyez, nous, par exemple, les pertes aviaires dans cette zone aillent jusqu'à 100%. L'année dernière, j'ai vu des agriculteurs qui ont investi 50 ou 100 hectares qui ont perdu 100% de leur production.
Des agriculteurs perdent 100% de leur production de riz, donc dévorés par des oiseaux, c'est bien ça? On a bien compris?
Oui, c'est exactement ça.
Et vous-même, vos pertes se montent à combien, vous, pour la récolte précédente?
Pour la campagne passée, jusqu'à 30, j'ai perdu 30%.
Vous avez perdu jusqu'à 30% de votre récolte
jusqu'à 30,
de riz.
Jusqu'à 30%. À l'heure où je vous parle actuellement, la zone où j'ai exploité une de mes terres sur 60 hectares, même le CNAS, l'agence qui est chargée de faire de l'assurance, a refusé d'assurer mes parcelles parce qu'il dit que cette zone a haut risque. Vous voyez, c'est ça. Parce que nous avons la possibilité de produire, mais malheureusement, en amont et en aval, nous avons des difficultés. Si l'État nous assurait d'éradiquer le phénomène des aviaires, des oiseaux, nous pouvons lui assurer l'autosuffisance alimentaire.
Par quel type de technique, comment font les autres pays qui ont des rendements forts par rapport à ce problème des oiseaux?
Bon, le phénomène, c'est rien, c'est de les traiter, c'est de les éliminer avant qu'ils nous éliminent. Le problème, c'est simple.
Éliminer les oiseaux traiter.
Oui, de les anéantir, parce que ce sont des... Bon, sinon, Ils vont nous éliminer parce que vous avez vu tout récemment, le président est parti en Russie pour demander de l'aide. Alors que nous, en tant que producteurs, nous pouvons produire ce qu'il aille chercher en Russie, par exemple.
Baba Diallo, votre objectif, c'est de cultiver, là vous êtes sur 200 hectares, c'est de cultiver sur 1000 hectares. C'est le seul moyen pour vous d'augmenter la production, c'est d'étendre vos parcelles à défaut d'augmenter les rendements?
Nous avons deux objectifs. Nos objectifs, c'est d'étendre nos surfaces cultivables. Et en d'autres termes, que l'État mette en place des variétés adaptées. Il est vrai que l'ISRA est en train de travailler là-dessus, mais il faut qu'on fasse vite à vulgariser ces variétés parce que n'oubliez pas que nous, dans la Vallée du Fleuve, on fait deux grandes saisons, la saison hivernale et la saison de contre-sèche chaude, la saison en cours. L'autre saison, la saison hivernale, pratiquement on ne produit plus. C'est pourquoi on peine à trouver du riz actuellement sur le marché. Parce que vous produisez, vous n'aurez rien. Parce que avec les changements climatiques, on voit l'apparition de nouvelles vers, des piqueurs suceurs, l'apparition des oiseaux et le problème de mobilité dans les zones d'exploitation.
Malgré toutes les difficultés que vous avez énoncées, Baba Diallo, dernière question, là, la récolte, donc c'est la récolte la meilleure de l'année, hein, puisque vous parliez de la récolte hivernale qui est très pauvre, elle s'annonce pour dans quelques jours. Comment elle s'annonce?
Pour l'instant, pour vous dire vrai, pour l'instant, les rendements sont au top. Parce qu'il y a j'ai su les récoltes, il y a des points de 10 tonnes, 12 tonnes à l'hectare. Donc, si l'État continue à lutter contre ces oiseaux, nous pouvons au moins, cette année, on aura les meilleurs rendements par rapport aux années précédentes.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Patricio Mendes del Villar, puisque Baba Diallo nous citait ces rendements-là, peut-être une très bonne récolte qui s'annonce 10-12 tonnes à l'hectare. Si on revenait vers le principal exportateur, l'Inde, pour avoir une simple comparaison, l'Inde arrive à avoir quel type de rendement à l'hectare? Par curiosité.
Alors l'Inde a fait beaucoup de progrès ces 10-15 dernières années grâce à des variétés hybrides. Et actuellement, ils doivent être à peu près en moyenne autour de 6 tonnes hectares. Mais sur une surface au niveau national de 45 millions d'hectares. Donc vous voyez, c'est quand même assez considérable.
Donc l'Inde n'a pas de meilleur rendement finalement?
Non, mais là, les rendements qui sont cités de 10-12 tonnes, je pense que c'est quand même assez particulier. Hein.
Une récolte au top, comme nous annonçait Baba Diallo.
Oui,
peut-être
mais
pas si
après,
courante.
Il faut voir sur quelle surface, quelles sont les parcelles qui, effectivement, on obtient ces rendements. C'est vrai, il y a des riziculteurs dans la vallée du fleuve qui obtiennent 10 tonnes à l'hectare. Mais bon, ce sont généralement des petites parcelles. Là, apparemment, on a affaire à un producteur qui est sur 200 hectares, ce qui est assez particulier. C'est-à-dire, c'est quand même une exploitation assez importante.
On a affaire, en effet, à une agriculture de petits producteurs. Hein, Marie-Pierre Olfan, on est plutôt sur des petites parcelles, 1 à 4 hectares.
Oui, ça n'a rien à voir avec, évidemment, ce qui se passe chez les gros producteurs Vietnam, Thaïlande, Inde. Et je me demandais, Patricio Mendes del Villar, est-ce que c'est facile pour un pays africain et pour des producteurs d'augmenter, de trouver des nouvelles variétés et d'augmenter ce rendement? C'est accessible, alors, en tout cas pour eux, c'est quelque chose de...
Alors, on parle depuis tout à l'heure des variétés, mais en fait, il faudrait parler à la fois des variétés adaptées, mais aussi de la qualité de la production de semences. Puisque c'est souvent le problème vient plutôt de la disponibilité des semences de qualité et qui soit, si c'est pas certifié, au moins qui a une certaine homogénéité dans ces
Alors que pour une même variété de riz, on peut avoir une semence plus ou moins bonne, c'est ça?
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir des variétés qui sont excellentes sur le plan agronomique, testées en station, mais ensuite, quand elles sont multipliées et diffusées et commercialisées, là, c'est un autre métier, c'est la multiplication des semences, c'est un autre métier et c'est là que souvent le problème se pose, c'est-à-dire sur la qualité, non pas des variétés, mais des semences. immense.
Il faut aussi que l'on parle dans quelques instants de la transformation, hein, parce que le grain récolté n'arrive pas comme ça directement dans l'assiette, d'autant plus qu'aujourd'hui, les consommateurs urbains veulent du riz blanc ou blanchi. Baba Diallo nous parlait de ces petites et grandes misères de cultivateurs, hein, de riziculteurs, du risque aussi de ces cultures. Vous restez avec nous, 7 milliards de voisins, l'Afrique au défi du riz, comment diminuer les importations, produire plus de riz local? Est-ce qu'il faut s'inspirer des locomotives que sont l'Égypte, le Nigeria, Madagascar? On va poser la question aussi à la Côte d'Ivoire. Le directeur de l'Agence pour le développement de la filière riz sera en ligne avec nous. Il est en ce moment d'ailleurs, je crois, au Caire. Ça sera juste après Didi B.
Frérot, très haut est le moral, on veut tous traverser l'orage. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. Ces négros ne sauront jamais nous empêcher de réussir, personne ne pourra. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. On est tous concernés, on est tous concernés. La vie et la mort et la vie. On est tous concernés, on est tous concernés. On est tous concernés. La vie et la mort et la vie. La mort et la vie. Hey. Ton père se lève tous les matins pour te ramener à manger. Tu dis que c'est la merde. Certains enfants n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont d'avoir des parents courageux. Tant que tu peux, dis-lui je t'aime, apporte-lui de la joie, on remplace pas une mère. Fonce dans ce que t'as choisi, ta passion c'est ta vie, même s'ils veulent te décourager. Est-ce que tes parents sont fiers de toi? Est-ce que te droguer c'est nécessaire? Est-ce que t'as assumé tes actes quand ta petite t'a dit qu'elle attendait un bébé? Hey, on est tous concernés. Essayer de faire mieux, hey, et rien n'est éternel. Demain tes problèmes seront finis. Frérot, très haut est le moral, yeah. On veut tous traverser l'orage. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. Ces négros ne sauront jamais nous empêcher de réussir, personne ne pourra. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. On est tous concernés, on est tous concernés. La vie et la mort et la vie. On est tous concernés, on est tous concernés. On est tous concernés. La vie et la mort et la vie. La vie et la mort et la vie. Frérot, très haut est le moral. On va plus croire tous ces connards. Petit du quartier devient renard. Perdre un parent ça fait trop mal. Perdre un proche ça peut traumatiser. Que des victimes et personne accusé. Devenir un grand de ce monde, ma vision. Finir bien et accomplir ma mission. Finir bien et accomplir ma mission. Devenir le meilleur et sans discussion. C'est rare, je parle, j'entends pas ce qu'ils disent. Bientôt je pars en vacances à Ibiza. Hier les poches étaient vides. On faisait les magasins remplis de frustration. Je veux dire à mes gars, prenez tout. Aujourd'hui c'est moi qui règle la mission. Frérot, très haut est le moral. On veut tous traverser l'orage. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. Ces négros ne sauront.
Tous concernés, Didi B, nous sommes en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, l'Afrique au défi du riz. On en discute avec nos invités, bien sûr Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières à RFI qui est disponible également, bien sûr, sur le site RFI.fr. Baba Diallo était en ligne tout à l'heure, un riziculteur au Sénégal. Patricio Mendes del Villar, économiste au CIRAD, le Centre de Recherche Agronomique pour le Développement, est toujours en liaison avec nous de Montpellier. Et nous donnons la parole à Yacouba Dembélé, directeur général de l'Agence pour le Développement de la filière riz en Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Dembélé.
Bonjour madame.
Vous êtes actuellement au Caire, je crois?
Oui, c'est au Caire actuellement.
L'Égypte est l'un des premiers producteurs de riz du continent. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour la Côte d'Ivoire ou pas?
Absolument, absolument. L'Égypte, d'abord, en pleine fin, qui entre avec nos amis égyptiens, ils ont des variétés de riz qui vont jusqu'à 10 tonnes d'état. Ils ont des variétés de riz qui résistent au stress hydrique, c'est-à-dire qu'avec le dérèglement climatique, nos cultures vont être de plus en plus confrontées à ce problème de sécheresse, à ce problème d'inondation. Et ensuite, au niveau de l'Égypte, ils ont toute une organisation pour mettre en place des hybrides de riz. Mmh. Nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore adopté le système d'hybrides de riz. C'est de voir comment cette approche-là est bien maîtrisée en Égypte.
Alors, le riz, c'est le premier poste de dépense alimentaire des ménages ivoiriens. À combien vous évaluez le manque de riz local pour satisfaire la demande des consommateurs?
D'abord, le riz, nous consommons en Côte d'Ivoire à peu près 84 kg par habitant et par an. Nous avons une demande nationale qui s'évalue aujourd'hui autour de 1 900 000 tonnes. Et nous-mêmes, nous produisons qu'au bon an, mal an, entre 900 000 et 1 100 000 tonnes. Donc, il y a un déficit entre 800 et 900 000 tonnes de riz en Côte d'Ivoire qu'il faut faire venir de l'extérieur, et c'est à coût de milliards de devises. Ouais.
Et le riz local, maintenant, depuis quelques années, est transformé sur place, hein?
Oui, oui, ça c'est très important. Vous savez, le riz, pour développer le riz, il y a des fondamentaux. Tout à l'heure, vous parliez de semences. La plupart des pays africains disposent avec Africa Rice de bonnes semences. Mais le problème de la semence, c'est d'abord la certification, l'homogénéité et le dispositif de distribution pour que les paysans puissent avoir des semences de qualité et certifiées. La deuxième chose, c'est mettre en place des dispositifs de vulgarisation, de meilleures techniques. Et ensuite, la transformation. On oublie souvent que les paysans ne produisent pas du riz. Les paysans produisent du paddy. Mmh. Si vous amenez les paysans à produire du paddy.
Qui est le grain brut, hein, avant décortiquage.
Voilà, c'est ça. Et vous l'amenez à produire du paddy. Mais s'il n'y a pas d'usinier, vous venez acheter son paddy. Mais l'année d'après, il diminue sa production et se cantonne à ce qu'on appelle à l'autosuffisance, à l'autoconsommation, pardon. Donc c'est très important d'avoir un parc. Un parc de machines à la hauteur de la production, except ce parc-là doit augmenter au fur et à mesure. Et ensuite, la dernière chose, c'est mettre en place un dispositif de distribution du riz local. On a dans notre pays un système très huilé de distribution du riz importé, mais la distribution du riz local, c'est toute notre problématique. Voilà les éléments sur lesquels, fondamentalement, on doit s'attaquer avec, bien sûr, la maîtrise de l'irrigation, produit du riz, sans forcément dépendre de la pluie ou de l'eau. Voilà.
Mais alors, produire du riz sans forcément dépendre de la pluie, à l'heure actuelle, l'essentiel du riz en Côte d'Ivoire, c'est un riz qui est produit grâce à la pluie, c'est du riz pluvial.
70%.
Et qu'est-ce que vous cherchez à renverser la tendance, à produire davantage de riz irrigué grâce aux barrages?
Absolument. Nous avons beaucoup de sites, nous avons un potentiel irrigable d'à peu près 200 000 hectares, mais nous n'avons que 55 000 hectares absolument irrigués. Nous avons encore de voir tous les systèmes d'irrigation par gravité, notamment faire des barrages, et donner une disposition beaucoup de potentiel. Et l'objectif vraiment est de renverser la tendance entre le riz irrigué et le riz pluvial avec vraiment une accentuation à travers la situation actuelle avec le dérèglement climatique. Nous avons eu vraiment des décalages de pluie qui vont jusqu'à 30 jours. C'est-à-dire que avant, par exemple, nous, les semis du riz pluvial dans la moitié sud de la Côte d'Ivoire, vers le 15 février. Mais nous avons eu, dans les années 2016, des décalages de près de 45 jours entre la période prévue et la période pendant laquelle
Patricio Mendes del restez en ligne avec nous, Yacouba Dembélé, à propos de ces aléas climatiques, de ces caprices de la pluie. Patricio Mendes del Villar, est-ce que l'Afrique doit s'orienter vers une riziculture irriguée pour ne plus dépendre des pluies qui n'arrivent pas au bon moment?
Alors, évidemment, c'est l'idéal, c'est de pouvoir avoir une maîtrise totale de l'eau et de ne pas avoir ces problèmes de sécheresse ou de cycles qui viennent poser problème aux producteurs. Mais ce qui se passe, c'est que mettre en place des systèmes irrigués à très grande échelle, on l'a fait dans les années 80, et notamment dans la vallée du fleuve et à l'office du Niger au Mali. Mais malheureusement, ce sont des systèmes qui coûtent énormément très cher à l'investissement, dont souvent les pays n'ont pas les moyens, donc ils font appel bien sûr à des partenaires internationaux. Mais moi je dirais aussi qu'au-delà des investissements pour créer ou mettre en place réhabiliter des périmètres irrigués qui avaient été abandonnés, il y a aussi le problème de l'entretien. Mmh. Et l'entretien pose un problème aussi parce que ça veut dire qu'il y a non seulement une mise de départ pour aménager ces systèmes irrigués, mais il faut ensuite de pouvoir entretenir tous ces systèmes-là. Et malheureusement, et c'est aussi de ce côté-là que le problème
Mais
se pose.
Mais comment fait l'Égypte ? Comment fait le Nigeria ?
Alors, l'Égypte, c'est très particulier. Hein. Je veux dire qu'il y a ce sont des petites parcelles le long du fleuve
du Nil,
et ce sont les producteurs, mais accompagnés bien sûr par l'État, qui entretiennent tous ces systèmes d'irrigation, et ce qui permet à l'Égypte d'avoir des rendements pratiquement parmi les plus élevés au monde et plus de 10 tonnes à l'hectare, quoi. Mais je ne suis pas sûr que
ce
modèle puisse. Alors le Nigeria, en fait, il y a un peu de tout. Il y a des systèmes, enfin des périmètres irrigués où on maîtrise la culture, mais en fait, à côté de ça, le Nigeria a aussi des systèmes, ce qu'on appelle de bas-fonds, c'est-à-dire des cuvettes où l'on maîtrise plus ou moins bien l'eau et on cultive le riz ou de pluvial. Donc, en Nigeria, il y a tous les systèmes. Donc, on ne peut pas non plus comparer, dire que le Nigeria et l'Égypte, c'est les mêmes systèmes. C'est beaucoup plus diversifié.
Difficile de trouver
des rendements.
Difficile du
avec
coup
des
de trouver
plus
des.
Aussi.
Mais difficile de. En fait, la question que je vous posais, Patricio, c'était de savoir est-ce qu'il y avait des pays qui pouvaient servir d'inspiration, hein, puisque Yacouba Dembélé semblait nous dire qu'il était en Égypte, alors certes, pour discuter du problème des semences, mais on a Madagascar alors, aussi qui ambitionne de devenir le grenier à riz de l'Afrique. Je ne sais pas si c'est réaliste.
Alors Madagascar a aussi ses propres problèmes. Hein. Je veux dire que, bien sûr, il y a des systèmes irrigués, des petites parcelles aussi. Mais pour revenir à cette comparaison, je vais peut-être dire une expression un peu galvaudée, c'est comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire que le contexte de l'Égypte n'est pas forcément le même qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. Et monsieur Dembélé a évoqué, a fait le diagnostic de tous les problèmes que se posent à la riziculture et à la filière riz en général, que ce soit au Côte d'Ivoire, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays. Mais je pense que les contextes sont beaucoup plus difficiles parce qu'au niveau de la production, il y a un potentiel, ça a été évoqué pendant l'émission, mais il y a un problème d'accès aux moyens, accès au crédit, accès aux intrants, aux semences de qualité, comme ça vient d'être dit. Et puis il y a aussi, il faut tenir compte des stratégies des producteurs, c'est-à-dire que les producteurs, on minimise un peu l'autoconsommation, c'est-à-dire que beaucoup de riziculteurs sont dans des systèmes d'autoconsommation. Et quand on est en système d'autoconsommation, on investit, on n'achète pas trop des engrais, des intrants. On fait le minimum, si je puis dire, pour assurer la culture. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des risques de production qui sont très importants. Et le cas des oiseaux qui était évoqué tout à l'heure, ce n'est pas un problème anodin et qui est propre à un seul pays. On le trouve dans tous les pays d'Afrique et voire dans les pays du monde, ce problème des oiseaux. Mmh. Même en France, en Camargue, et les riziculteurs sont confrontés à ce problème. Et en Afrique...
Et que fait l'Inde, par exemple, contre le problème des ravageurs ?
Alors, ils ont une main-d'œuvre. Ils ont une main-d'œuvre pour chasser les oiseaux. En Afrique, il y a aussi un système qui pourrait se développer, mais à toute petite échelle, c'est de mettre des filets de pêcheurs sur les parcelles.
Sur les petites parcelles.
Sur des petites parcelles et sur une période relativement courte.
Restez en ligne, restez avec nous, Patricio Mendes del Villar. Un auditeur nous appelle de Cologne, en Allemagne. Abdoulaye est en ligne avec nous au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Désolée de vous avoir fait patienter. Le sujet sur l'autosuffisance du riz en Afrique, évidemment, est un sujet complexe et passionnant. Vous souhaitez apporter vos analyses, Abdoulaye. On vous écoute.
Oui, justement. En fait, je suis gérant d'une société agricole en Guinée, bah, équipière agricole spécialisée dans la culture des céréales, particulièrement le riz et le maïs. Bon, en fait, l'autosuffisance alimentaire pose encore un problème en Afrique. Et cela est dû à trois facteurs. Le premier facteur, c'est un manque d'orientation politique dans la plupart des gouvernements africains. Le deuxième facteur, c'est un manque de pragmatisme. Et le troisième facteur, c'est l'esprit de dépendance des peuples africains. Si vous prenez le premier facteur, un manque d'orientation politique, c'est que la plupart des gouvernements africains ne prennent pas l'agriculture comme, disons, un facteur prioritaire dans leur plan politique.
Est-ce que quand même avec la guerre en Ukraine, la question de la souveraineté alimentaire n'est pas largement devenue une question centrale pour les dirigeants du continent ?
Oui, c'est maintenant, il se lève très tard. C'est qu'il ne faut pas attendre que ça crie chez les autres pour que vous preniez des dispositions. Parce que chaque pays doit être indépendant. Vous devrez penser à l'avenir. Dans ce monde où nous sommes, nous devrons penser non seulement pour le présent, mais pour le futur. On doit poser des hypothèses. Au cas où ça ne va pas, comment nous allons faire? Ça veut dire qu'on doit anticiper les solutions. Il ne faut pas attendre que les guerres se créent pour qu'on puisse prendre des dispositions. C'est une honte pour l'Afrique que actuellement les dirigeants maintenant se peinent pour dire non, cessez la guerre pour que nous on ne meure pas ici de faim.
Abdoulaye, merci de votre intervention. Je suis désolée, on ne peut pas vous garder plus longtemps parce que j'aimerais qu'on fasse réagir Yacouba Dembélé, le directeur général de l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire, autre pays, bien sûr, vous êtes guinéen, Abdoulaye, mais concernant le manque d'orientation politique, Yacouba Dembélé, est-ce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire a pris la mesure de la nécessité d'une politique basée sur l'autosuffisance en riz, alors que l'agriculture est tellement tournée vers les matières premières d'exportation, évidemment cacao, café, je parle sous le contrôle de Marie-Pierre Olfan, noix de cajou, bien sûr aussi.
Je voudrais dire à notre ami guinéen que nous avons oublié la crise de 2008. En 2008, on a eu à peu près le même problème avec un renchérissement au niveau de la production, au niveau des coûts. Il y avait très peu de riz parce que n'oubliez pas que les pays africains, les gouvernements africains sont obligés parce qu'il n'y a que 5% du riz mondial qui fait l'objet de transactions. Tout le reste du riz est consommé par les pays producteurs. Donc il y a toujours un risque. Et nous avons pris la décision, le gouvernement a pris la décision en 2008 à travers la coalition africaine pour le développement de la agriculture de doubler la production de 10 ans, de 2008 à 2018. Effectivement, tous les pays, pratiquement, ont doublé leur production. Mais ça n'a pas suffi. Hein? La Côte d'Ivoire, nous sommes allés à peu près moins de 10 000 tonnes. Aujourd'hui, on a moins de 50 000 tonnes. 550 000 tonnes, nous sommes arrivés à 1 million.
Bon, on ne va pas se perdre dans les chiffres. En tout cas, merci d'avoir été en ligne avec nous, Yacouba Dembélé. Nous allons conclure cette émission avec cette question tout de même centrale. À défaut d'une autosuffisance en riz difficilement atteignable dans les années à venir pour le continent, comment est-ce qu'on peut diminuer la dépendance, notamment au riz indien, Patricio Mendes del Villar ?
Diminuer la dépendance, déjà à court terme et même à moyen terme, je le vois difficilement. Comme ça a été évoqué, hein, je veux dire que quand il y a des crises, bien sûr, les gouvernements, les partenaires internationaux se mobilisent pour relancer les filières locales. Mais malheureusement, ces initiatives s'arrêtent un peu en cours de route lorsque les marchés se stabilisent et que le riz importé, notamment, revient sur les marchés.
Donc il s'agirait d'un vieux refrain qui reviendrait tous les 10 ans au rythme des crises.
Je pense qu'il faut peut-être changer un peu le logiciel. Et se dire que, bien sûr, le riz est le produit de consommation par excellence dans les villes. Mais dans les campagnes, dans les zones rurales, les systèmes sont beaucoup plus plus diversifiée. Il faut peut-être raisonner en termes de systèmes alimentaires et avec une diversification. Et je pense que c'est la meilleure façon d'assurer la sécurité alimentaire. Et peut-être qu'il faut revoir cette stratégie d'autosuffisance en riz, qui certes, pour les villes, est importante, mais je pense qu'il y a des choses à faire du côté des autres productions. Et, par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, le manioc qui est très important dans la consommation. Je pense qu'il y a des choses dans la transformation à faire
et les autres céréales le locales. Marie-Pierre Rolfand, un dernier mot avant qu'on se quitte.
Oui, donc finalement, on comprend bien que le riz n'est pas la seule solution. Il ne sera pas le sauveur, même s'il a sauvé un petit peu là temporairement avec des prix plutôt stables. Il faut se diversifier.
Même si ça sera peut-être difficile de diversifier l'alimentation d'une population urbaine en pleine croissance qui réclame toujours plus de riz blanc. Merci à vous tous. Demain, 7 milliards de voisins. Où passe l'argent des femmes ? Reine du budget ou taxée de frivolité, quel équilibre financier? Les femmes sont-elles désavantagées au sein des dépenses des couples? On attend vos témoignages, les voisines et les voisins. Vous nous appellerez, vous pouvez nous appeler d'ailleurs dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec l'artiste tanzanien Bosso. À demain.
Tausi wetu, mpendwa tausi, mwayangu mwana kwetu, chanua mbawa zako, tausi, waione rangi yako, tausi, mpole sauti, hiyo ndiyo sifa yako, tausi, chanua mbawa zako, tausi, waione rangi yako, tausi, jichunge tausi, wasinyofoe nyoya lako.
Karibu tausi, karibu sana tausi. Mchezo uliotukuta nao ni wa sadaka lawe ya mina, mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose. Kipapatio cha kuku kugani mweusi, analiaje kwinyo kwinyo. Mpaka lini mwenye kupata apate? Mpaka lini mwenye kukosa akose? Asante tausi, umeukatamlio wa kwinyo na rangi ya kuku kugawana. Tausi, harufu unayoisikia ni ya chakula walichokula. Wameamua tu kujisaidia nyuma ya nyumba ili harufu irudi ndani kumchefua mpishi. Usishtuke, ndivyo ilivyo kwa watu wenye shibe. Tausi, tumbo lenye kukataa uleta tumawe mawe. Unapotaka kututambulisha watoto wako kwa wageni, tumia idadi yetu na sio majina. Maana baadhi ya wanao wanatumia AKA squeeze, watakufunga. Kumbuka, tika la kuni ni fungato liliofungwa kwa mkazo. Halipasi kumuumiza mbebani. Karibu tausi.
Tausi wewe, tausi wetu. Karibu tausi, uipambe nyumba yetu. Tausi wewe, tausi wetu. Mpendwa tausi, mwayangu mwana kwetu. Chanua mbawa zako, tausi. Waione rangi yako, tausi. Mpole sauti, hiyo ndiyo sifa yako, tausi. Chanua mbawa zako, tausi. Waione rangi yako, tausi. Jichunge tausi, wasinyofoe nyoya lako.
Tausi, mimi mwanao, baada ya kutoka jandoni, nilizani mimi ni mkubwa sasa. Naambiwa, hicho kilichotolewa ni kipande cha ngozi tu. Hakina mahusiano na kukua kwako. Kweli? Ina maana kila anaingiza kidole puani ana mashaka na alichonusa. Uliwahi kusema wewe mwenyewe.
7 milliards de voisins, c'est fini.